Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Sommet européen à Bruxelles sur fond de Brexit et d'entente franco-allemande au beau fixe. L'Europe qui prolonge les sanctions contre la Russie de 6 mois. Et en Australie, le gouvernement promet 5 milliards de plus pour l'éducation pour faire passer le projet Gonski 2.0. Mais l'on débute ce journal... Avec les retombées de l'incendie ou après l'incendie meurtrier de la tour de Grenfell à Londres. Incendie qui, je vous rappelle, avait fait 79 morts selon le bilan provisoire. Vendredi, on apprenait que l'accident a très vraisemblablement été causé par un frigo qui aurait pris feu. Et selon la chef de la police métropolitaine de Londres, le réfrigérateur n'avait fait d'aucun rappel par la société Hotpoint. Par contre, le matériel utilisé dans les façades de la tour avec lui était signalé après avoir échoué 2 essais incendie. On écoute la superintendante Fiona McCormack.
Preliminary tests on the insulation samples collected from Grenfell Tower showed that they combusted soon after the test started. The initial tests on the cladding tiles also failed the safety tests.
Voilà donc la superintendante Fiona McCormack. D'ailleurs, toujours sur ce sujet, la ville de Londres a décidé d'évacuer 800 appartements dans des tours qui portent des similitudes avec la tour de Grenfell. Certains conseils ont même déjà décidé de retirer les revêtements mis en cause, malgré les propos d'ailleurs de la première ministre Theresa May, qui demandait des tests un peu plus poussés sur ces revêtements. On écoute la conseillère du quartier de Camden à Londres, Georgia Gould.
I've made the really, really difficult decision to move the people living there into temporary accommodation while we do the urgent works to guarantee safety. I know it's difficult, but Grenfell changes everything, and I just don't believe we can take any risk with our residents' safety, and I have to put them first.
Voilà, donc la conseillère du quartier de Camden à Londres, Georgia Gould. Plus d'une centaine de tours d'ailleurs au Royaume-Uni ont été identifiées comme dangereuses et sont donc sous le coup d'une enquête. 13h03, on en vient au premier Conseil européen ensemble entre le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Ils ont tous les deux dit la satisfaction des travaux conjoints qui ont été faits lors de ce Conseil et qui ont fait de ce Conseil un succès. Et pour la chancelière allemande, les dirigeants européens doivent d'abord améliorer l'image de l'Union européenne. On l'écoute.
Il est important que nous arrivions à nous concentrer sur les problèmes que nous aurons à résoudre. Que devons-nous faire pour que les gens trouvent plus facilement un emploi et reprennent confiance en l'Europe? Si nous voulons y arriver, il ne faut pas rendre Bruxelles responsable de tout ce que nous ne pouvons pas résoudre chez nous au niveau national en disant « c'est la faute de l'Union européenne ». Non, l'Union européenne sera comme nous la présentons puisque nous en faisons tous partie. Et l'autre point important, nous devons repenser nos priorités. Or, parfois, les réglementations techniques nous en empêchent. Il arrive que l'arbre cache la forêt. Nous nous focalisons même tellement sur chaque arbre que nous perdons de vue le reste du monde. En ce sens, cette réunion du Conseil européen nous a permis de regarder plus loin que le bout de notre nez pour savoir sur quoi nous devons nous concentrer pour apporter sécurité, prospérité et protection.
Voilà, la chancelière allemande Angela Merkel depuis Bruxelles. Alors faisons le point sur ce sommet avec Piotr Moczynski.
Les débats du Conseil européen ont coïncidé avec l'ouverture des négociations sur les deux parts de la Grande-Bretagne de l'Union. Ce contexte n'a non seulement pas gâché la fête, mais il a visiblement mobilisé les participants à chercher des solutions pouvant améliorer le fonctionnement à 27. Parmi ces solutions, création du Fonds européen de la défense et lancement d'une coopération européenne plus étroite en matière de la lutte contre le terrorisme sur Internet. Le couple franco-allemand vit manifestement une vraie renaissance. L'intense coopération entre Paris et Berlin était nettement affichée pendant tout le sommet et à sa fin, symboliquement, sous forme d'une conférence de presse commune. Le Brexit a été relégué au deuxième plan. Theresa May semble plutôt isolée et ses premières propositions sur les droits des citoyens européens installés en Grande-Bretagne après le Brexit ont été accueillies fraîchement et qualifiées d'insuffisants.
C'était Piotr Moczynski pour RFI depuis Bruxelles. Les dirigeants européens, d'ailleurs, ont également prolongé les sanctions contre la Russie de 6 mois. Bruxelles accuse Moscou de participer aux problèmes toujours existants en Ukraine. Quelques heures auparavant, c'était les États-Unis qui reconduisaient leurs sanctions et la réaction russe a été beaucoup plus virulente contre Washington, comme nous l'explique Muriel Pomponne.
Réaction modérée de Moscou au renouvellement, sans surprise, des sanctions européennes. L'Union européenne a une mauvaise perception de la situation qui l'a conduit à une mauvaise approche du dossier, estime le chef de la Commission des affaires étrangères au Sénat, Konstantin Kozatchov, pour qui les Européens écoutent trop le point de vue de Kiev. Réaction plus virulente du chef de la diplomatie russe à l'annonce de nouvelles sanctions américaines. Ce genre d'action menace sérieusement l'ensemble des relations russo-américaines qui connaissent déjà sans cela une période difficile, a déclaré Sergueï Lavrov à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue américain. Et Moscou a décidé d'annuler une rencontre de haut niveau prévue cette semaine à Saint-Pétersbourg. Le ministre parle de sanctions décrétées sans fondement qui ne resteront pas sans mesure de rétorsion. Dès le 15 juin dernier, Vladimir Poutine avait déclaré que les sanctions allaient compliquer les relations entre Moscou et Washington. Dans le même temps, la récente visite du ministre français des Affaires étrangères à Moscou, après la visite de Vladimir Poutine en France, semble indiquer une volonté de dégel entre Moscou et l'Europe.
Muriel Pomponne pour RFI. En Australie, maintenant, la loi de financement des écoles, dite Gonski 2.0, eh bien, cette loi est passée devant le Parlement. Le gouvernement a dû promettre une augmentation de ses investissements dans l'éducation de plus de 5 milliards de dollars, le tout afin de récolter 10 votes cruciaux de la part du crossbench. Cette somme monte l'investissement total du gouvernement à 23,5 milliards de dollars. Et pour Stephen Doherty, le président des associations des écoles catholiques, les vrais gagnants dans tout ça, ce seront les élèves.
The extra loadings that now go to students with disabilities, students from non-English speaking backgrounds, students who live in remote areas, the extra loadings, that gives governments the power to very powerfully, give schools, people in the classroom, the power to very powerfully remediate for those kids. And that's not something that they've had before.
Le parlementaire Stephen Doherty. Les travaillistes et les Verts se sont opposés à cette réforme. On écoute Jihab Dib, donc c'est un parlementaire travailliste. Pour lui, les écoles en difficulté ne doivent pas payer le prix. On l'écoute.
We need to make sure that the governments, whether it's the federal, whether it's state, and it's across all the different parties, we need to come back to that very first principle that every single student in Australia has an opportunity. Some are going to need more support than others, and we can't play silly buggers in terms of a special deal here and a special deal there. We've got to make sure that the schools with the highest need are the ones who are receiving the highest amounts of money. And if that means that some who are very exclusive schools receive less money, well then so be it, because they're not the ones who are doing the heavy lifting.
Et c'était Jihab Dib, donc le parlementaire. 13h09, Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar, pourrait fermer. C'est en tous les cas les souhaits de l'Arabie Saoudite. La chaîne de télé est prise dans la crise diplomatique donc entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et pour une association de journalistes et pour les journalistes en règle générale, eh bien, c'est une atteinte à la liberté de la presse. On écoute Bratislav Trocek, il est de l'Université de Prague.
Le ministre qatarien des Affaires étrangères a déjà dit ces derniers jours et de manière répétée que la question de la chaîne Al Jazeera est une affaire interne au Qatar et que le pays refuse de discuter de cela avec des pays étrangers. Nous savons qu'Al Jazeera est un outil très puissant pour un petit pays, qu'Al Jazeera a provoqué les printemps arabes, que la chaîne soutient les opinions publiques, la rue arabe en quelque sorte, dans beaucoup de pays et notamment contre les régimes du Moyen-Orient, pas seulement l'Arabie Saoudite, mais aussi le régime actuel en Égypte, etc. Et donc, bien sûr, c'est un outil de provocation du Qatar. Et du point de vue des Saoudiens, c'est normal de demander de fermer la chaîne.
Et c'était donc Bratislav Turchek de l'Université de Prague. La Corée du Nord qui accuse Washington de propagande et de diffamation au sujet du décès de l'étudiant américain qui avait été emprisonné par le régime et qui avait été par ailleurs rapatrié dans le coma, qui est décédé la semaine dernière. Les explications sur ce sujet avec Benjamin Delisle.
La plus grande victime de cet incident, c'est la Corée du Nord, estime le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Balayant les accusations de mauvais traitement, Pyongyang estime même avoir fait preuve de miséricorde envers un criminel d'un État ennemi en lui fournissant des traitements et des soins médicaux. Otto Warmbier avait été jugé en moins d'une heure et condamné à 15 ans de travaux forcés en mars 2016 pour le vol d'une affiche de propagande. Il était venu dans le pays dans le cadre d'un voyage organisé pour le nouvel an, mais les dirigeants nord-coréens assurent que l'étudiant était en mission pour une organisation des États-Unis fomentant des complots. Selon eux, Warmbier est une victime de la politique d'Obama qui a toujours refusé le dialogue avec Pyongyang. Ils appellent les États-Unis à mesurer les conséquences de leurs actes irresponsables dans ce qui semble être une menace au sujet des trois autres Américains emprisonnés en Corée du Nord. Et ils accusent également la Corée du Sud d'utiliser le décès du jeune Américain pour obtenir la libération des six détenus sud-coréens.
Et c'était Benjamin Lille pour RFI. En sport, direction Paris. Paris qui passe en mode des JO. La capitale française sort le grand jeu ce week-end pour montrer son attachement aux valeurs olympiques, 100 ans après la création du mouvement par Pierre de Coubertin, et également renforcer sa candidature pour 2024. 33 événements sont ouverts au public et le clou de l'événement, c'est une piste d'athlétisme, installée sur la Seine. Reportage de Pierre-Olivier.
C'est au ras de l'eau que flotte cette piste d'athlétisme hors du commun. Dessus, des dizaines d'enfants s'entraînent à courir le 100 mètres, visiblement conquis par l'installation.
Vous avez couru là sur la piste ?
Oui !
C'est marrant ! C'est marrant.
On a le masque de mer ! Comme un bateau en fait.
Ouais, ça bouge, ça fait un peu bizarre.
150 mètres de long, 15 de large au beau milieu de la Seine, cette Parisienne qui cherche son équilibre trouve néanmoins l'idée originale.
C'est assez impressionnant d'être sur une piste qui tangue. Je ne sais pas si je vais y rester très très longtemps, mais c'est assez impressionnant de voir la Tour Eiffel d'un côté, enfin les Invalides de l'autre. C'est assez joli, ouais.
Si Paris décroche les Jeux en 2024, les épreuves se dérouleront dans un stade et non pas sur la Seine. Le perchiste Renaud Lavilloni a essayé cette piste flottante.
C'est pas stable. Pour faire des performances en compétition, on a besoin de stabilité. Là, on peut avoir des risques de mouvement et qui fait qu'on peut retrouver le sol plus tôt ou plus tard en fonction. Rien de tout ça ne pourrait être officiel pour la compétition.
Cette piste, c'est donc avant tout un moyen de communication pour la ville de Paris à 3 mois de la décision du comité olympique.
Et Pierre-Olivier, donc, pour RFI. Coup d'œil météo pour aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 18 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 13. Hobart, 10. Canberra, 12. Sydney, 18. Brisbane, 25. Cairns, 26. Et Darwin, 31 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité. Sommet européen à Bruxelles sur fond de Brexit et d'entente franco-allemande au beau fixe. L'Europe d'ailleurs qui prolonge les sanctions contre la Russie de 6 mois. Les États-Unis l'avaient fait également quelques heures auparavant. Et en Australie, le gouvernement qui promet 5 milliards de plus pour l'éducation pour faire passer le projet Gonski 2.0.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench